When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bienvenue sur CNews. Cet après-midi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente les invités du jour juste après le rappel des titres avec Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa.
17 compagnies européennes sous la menace de plainte. Elles sont dans le viseur de 22 associations européennes pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses sur l'écologie. Ces associations espèrent une décision commune pour interdire toute allégation visant à faire croire aux consommateurs que prendre l'avion est une pratique respectueuse de l'environnement, mais aussi que soit lancée une enquête à l'échelle européenne sur les pratiques de ces compagnies. Projet d'attentat à une centrale nucléaire, le Kremlin dénonce un mensonge. Le Kremlin réfute les affirmations de Volodymyr Zelensky, selon qui les forces russes préparent une fuite radioactive de la centrale nucléaire de Zaporijjia qu'elles occupent dans le sud de l'Ukraine. C'est un nouveau mensonge, on vient juste d'avoir des contacts avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Et puis, ouverture du procès de Jair Bolsonaro au Brésil. L'ancien président est accusé d'abus de pouvoir pour des attaques contre le système de vote électronique formulé avant la présidentielle de 2022. Un rendez-vous capital pour le leader d'extrême droite qui pourrait déboucher sur son inéligibilité, mais auquel il n'assistera pas comme il l'a d'ores et déjà fait savoir hier.
Merci beaucoup, Somaïa. Il reste évidemment à cette heure beaucoup de questions après l'explosion hier à Paris, rue Saint-Jacques. Et alors qu'on s'inquiète encore pour le sort de plusieurs personnes, 6 en urgence absolue et une portée disparue.
La première chose qui m'est venue en tête, c'est cours vite parce que tu vas te faire rattraper par l'explosion. J'arrivais pas à savoir si l'explosion était à son maximum au moment où je l'avais vue ou si en fait ça continuait à s'étendre. Et je peux dire que j'ai eu peur pour ma vie, honnêtement.
Que se passe-t-il à Bordeaux ? De multiples violences dans le quartier Saint-Paul ont éclaté entre riverains, jeunes en quête de drogue et commerçants.
L'insécurité à Bordeaux, on le ressent depuis quelques années, depuis 2-3 ans.
On a vécu 2 ans et demi catastrophiques avec des craqueurs qui étaient à 10 mètres de notre porte d'entrée 24 heures sur 24. C'était épouvantable. Épouvantable, il n'y a pas d'autre mot.
Enfin, la fête de la musique a bien failli virer au drame. Le maire de Toulouse et plusieurs membres de son équipage violemment pris à partie alors qu'il déambulait, non loin d'une manifestation de militants de soulèvement de la terre. Ils ont été pris en chasse par des ultras.
On a été très vite entourés, dirais-je, et pris à partie de manière violente, c'est-à-dire de manière très personnalisée, des slogans verbaux, des agressions verbales très dur à mon endroit. Ils ont pris des poubelles qui étaient à proximité, ils les ont ouvertes et ils nous ont balancé des projectiles, des ordures ménagères et aussi des bouteilles.
Et voilà, pour m'accompagner, j'ai plaisir à accueillir sur ce plateau Céline Pina. Bonjour Céline, je rappelle Bonjour. Que vous êtes essayiste. Merci d'être avec nous, à vos côtés. Amaury Bucco du service police-justice, merci à vous également. Karim Zeribi est là.
Bonjour Nelly.
Salut Karim. Bonjour Michel Bonjour. Chevalet, ravi de vous revoir également sur ce plateau. Il y a évidemment beaucoup d'incompréhension, toujours ce jeudi, après l'explosion de la rue Saint-Jacques hier après-midi. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une personne qui est toujours portée disparue, a priori dans les décombres. Et puis ce bilan. Toujours intermédiaire, c'est important de le préciser parce qu'il évolue en permanence en fait depuis hier. 6 personnes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total sans qu'on sache à quel degré elles sont blessées les unes et les autres. Alors a priori, il n'y avait pas d'étudiants dans les salles de cours de ce fameux bâtiment qui abritait la Paris American Academy, car heureusement, ces élèves assistaient alors à un défilé de la Fashion Week à Paris. Bonjour Régine Delfour. Moins de présence de secouristes, on va dire que disons que l'étau s'est un petit peu desserré, mais la vie est loin, bien loin d'avoir repris ses droits. On pense évidemment à tous ces riverains qui ne peuvent pas réintégrer leur logement à l'heure qu'il est.
Oui, certains riverains, parce qu'on parle de 18 immeubles qui ont été évacués, donc ces riverains, eux, ne peuvent pas revenir dans leur appartement. Il y a toujours ce périmètre avec ces barrières. Il faut présenter un justificatif de domicile et une pièce d'identité pour pouvoir aller récupérer surtout des médicaments. Hein. C'est ce que nous disent les gens, ils viennent chercher des médicaments, des papiers, quelques affaires. Mais il y a cette maison, où la maison des mines et des ponts aux chaussées, où 400 étudiants sont logés, la plupart sont étudiants à l'école des mines, et eux ont pu regagner leur chambre parce qu'ils sont très nombreux en fait, et cet immeuble a été sécurisé il y a un petit peu moins d'une heure, donc ils sont dans cet immeuble. Les habitants que nous avons pu rencontrer, les riverains, donc après avoir été choqués, sont évidemment très inquiets pour ces blessés. Vous l'avez dit, ce bilan qui ne cesse d'évoluer puisque nous sommes à une 50 de blessés avec 6 personnes dans un état très grave, en urgence absolue. Ils s'inquiètent donc des suites et surtout s'ils connaissent ces personnes. Et puis ceux qui ne peuvent pas regagner leur appartement espèrent avoir bientôt une réponse pour savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ou sinon où vont-ils être logés.
Merci beaucoup. Merci Régine, en direct du 5e arrondissement parisien. Alors entre-temps, deux services de la PJ sont saisis des investigations, chargés évidemment de tenter d'établir l'origine de cette déflagration. Quelles sont les hypothèses privilégiées depuis hier, 17h? Regardons tout cela avec Juliette Sada. Et puis on viendra vers vous, bien sûr, Amaury, pour un complément d'information.
Au lendemain de l'explosion au cœur de la capitale, l'enquête se poursuit. Mercredi soir, les experts ne se prononcent pas sur les origines du sinistre.
On ne peut pas le savoir tant que l'expertise n'a pas défini quelle était la source de l'explosion, quelle était la cause de l'explosion. Donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une explosion liée à du gaz, mais encore une fois, il serait très prématuré d'essayer d'imaginer un scénario.
Des théories prématurées, même si quelques pistes sont privilégiées.
Pour l'instant, de ce qu'on sait, certaines pistes ont l'air de favoriser l'hypothèse d'une explosion qui serait partie du premier ou du deuxième étage, donc pas d'une explosion souterraine. Maintenant, on n'en sait pas plus que ça, donc c'est une piste qui est visiblement étudiée très sérieusement. Le gaz peut parfaitement provoquer ce genre de déflagration et être suivi d'un incendie, qui ensuite enflamme bien sûr tous les matériaux combustibles qui sont dans le bâtiment.
Une hypothèse qui se base sur les témoignages de l'explosion.
Après beaucoup de témoignages, il y a eu une forte déflagration, donc les gens ont entendu une très forte déflagration, ça c'est certain, qui ressemble à un blast d'explosion lié à du gaz éventuellement.
L'enquête a été ouverte pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes de mise en danger d'autrui. Une qualification amenée à évoluer selon la procureure de la République de Paris.
Amaury Bucaud va donc peut-être faire un point sur l'état des secours, les forces en présence pour tenter effectivement de regrouper un peu tous les éléments qui nous donneront la réponse, la raison de cette terrible explosion.
Bien sûr. Alors le parquet de Paris, là, on en parlait à l'instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu s'entretenir avec eux ce matin. Ce qu'ils nous ont expliqué déjà, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier, on parlait de 30 blessés. Ce matin, c'était 50. Ce bilan va peut-être encore évoluer. D'ailleurs, le parquet ne veut pas se prononcer trop rapidement sur l'évolution du nombre de blessés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il peut accroître, j'allais dire, encore très longtemps. En fait, toutes les personnes peuvent encore venir se manifester, les personnes qui ont été victimes de l'explosion. Toutes ne l'ont pas encore fait. Et quand on parle de victimes, on ne parle pas seulement des personnes qui ont été frappées directement par une pierre ou par l'explosion, mais ça peut être des gens qui ont subi le souffle de loin ou des personnes tout simplement qui étaient là et qui psychologiquement sont choquées, ne s'en rendent pas toujours compte immédiatement d'ailleurs, mais le deviennent par la suite. Alors, on avait aussi cette incertitude sur le nombre de personnes ensevelies. On avait le chiffre de 2 personnes, ça a été longtemps le chiffre qu'on a donné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une de ces 2 personnes, fort heureusement, n'était pas sous les décombres, mais était à l'hôpital. Il reste malheureusement une de ces personnes donc, qui est toujours recherchée. Alors pour cela, effectivement, un grand nombre de moyens est mis en place. Là, il y a à peu près 50 pompiers sur place, hein, c'est ce que nous indique la préfecture de police. Vous avez des pompiers toute la nuit, bien sûr, qui ont travaillé. Hier, vous aviez en tout, hein, vraiment mobilisé, vous avez plus de 300 pompiers, vous aviez 7 lances, enfin, vraiment, c'était un gros dispositif. Là, vous avez aussi tous les engins de déblaiement. Les brigades cynophiles, vous savez, un maître chien avec un chien spécialisé dans la recherche des personnes. Et puis vous avez effectivement ces 18 immeubles évacués. Ça, c'est quand même un gros chiffre qui, pour certains, heureusement, ont des solutions de logement par eux-mêmes. Et puis d'autres qu'il va falloir relâcher peut-être durablement pour vérifier que ces immeubles restent solides à ce jour.
Michel, avant d'explorer avec vous les pistes qui ont conduit à ce drame, peut-être un mot sur la manière dont on procède pour ces recherches qui sont quand même très sensibles. Il ne faut pas évidemment entraîner d'autres avaries, faire en sorte que les autres immeubles ne s'écroulent pas aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez compliqué. La tâche est ardue pour les secouristes.
Absolument. Mais les pompiers, il y a des équipes spécialisées pour ça, pour la recherche et le déblaiement. Donc, comme ils procèdent, d'abord la probabilité où on peut trouver des gens en fonction de la configuration de l'immeuble. On ne va pas aller chercher là où il y avait, mettons, une remise en fonction des plans, mais plutôt...
des bureaux.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'ils vont procéder couche par couche. C'est-à-dire qu'ils vont enlever les moellons, les pierres, les morceaux de bois, en prenant toujours des photos pour l'enquête après judiciaire, et on va enlever une couche et on laisse travailler les chiens. C'est très méthodique et c'est couche après couche jusqu'au moment où on est sûr qu'il n'y a plus rien et qu'on a tout déblayé. Voilà comment ils procèdent. Donc c'est forcément, ça va prendre plusieurs jours.
On a beaucoup dit ces dernières heures qu'il n'y avait pas eu de problème particulier à signaler concernant l'entretien de cet immeuble. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on exclut un problème de gaz ou de fuite.
Il y a des gens qui savent, forcément. Il y a d'abord le propriétaire, le gestionnaire de l'immeuble. Là, on ne voit pas. De l'école. La deuxième, c'est GRDF. Mais attention, GRDF, lui, c'est le réseau de distribution à haute pression 4 bars, qui apparemment était en bon état d'après les informations que j'ai eues. C'est-à-dire qu'on avait procédé il y a quelques années au changement des canalisations. On avait enlevé la fonte pour mettre de l'acier ou du polyéthylène. Deuxièmement, le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'immeuble ? Là, GRDF dit, moi, j'amène le gaz jusqu'au compteur, et après, c'est au propriétaire.
À charge pour le propriétaire.
À charge de faire vérifier par les professionnels son installation. Ce n'est plus ma responsabilité. Donc, vous avez bien compris le jeu qui est en train de se passer.
Une dernière question. On parle de ces 18 immeubles qui sont hors d'accès, soit à risque. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a toujours un risque qui peut être assez conséquent ?
Les explosions au gaz, il y en a beaucoup, des petites, il y en a, je ne veux pas dire constamment, mais il y en a beaucoup. Bon, la presse n'en parle pas. Celle-là, elle est comme la rue de Trévise, et celle-là est très spectaculaire. Ça, quand j'ai vu les premières images, j'ai dit à mon réseau d'information, il m'a dit, pof, ça sent le gaz. C'est typique d'une explosion au gaz. Voilà où on est. Sauf que l'explosion au gaz n'était pas dans les sous-sols de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il y aurait une fuite, et on va y revenir, mais à l'intérieur, pour le moment, l'hypothèse, à l'intérieur du bâtiment.
Et ça, c'est plus rare ?
C'est différent, hein.
Est-ce que ça arrive aussi à ce niveau-là ?
Ben oui, fréquemment. Mais souvenez-vous, soit des gens qui ont laissé le gaz ouvert, soit des gens qui se sont suicidés. Soit ou des gens qui avaient bricolé l'installation, ça s'est déjà produit.
Donc ça pourrait effectivement être une erreur humaine aussi. Voilà. D'accord. Karim Zeribi, qu'est-ce que ça vous inspire ? On a aussi beaucoup remis en question depuis hier quand même dans les différents témoignages l'entretien du réseau de gaz à Paris. Certains disent il n'est pas aux normes, il n'est pas toujours très bien entretenu. Qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps ? Qu'a-t-on appris de la rue de Trévise ?
Finalement, ce qui explique les travaux importants qui sont effectués sur la voie publique, on voit énormément de barricades de travaux dans Paris. Moi, je suis sur le 5e arrondissement lorsque je vis à Paris et je vois effectivement des travaux considérables avec des tranchées, le changement de la tuyauterie, hein, ce qu'a expliqué Michel, passer de la fonte à l'acier, cette modernisation nécessaire. Après, la procureure de la République hier a expliqué que l'enquête qui était ouverte avait deux volets. Possiblement un déficit de réglementation, de respect de la réglementation, ou l'accident individuel. Et Florence Berthoux, la mairesse du 5e arrondissement de Paris, hier, a quand même laissé entendre, d'après les informations qu'elle avait, qui sont beaucoup plus pointues que celles que nous avons, que ça pouvait se situer au deuxième étage de l'immeuble. Donc on en a parlé avec Michel. Donc la piste de l'accident est possible. Aujourd'hui, l'origine, on ne la connaît pas. Ce que l'on sait, c'est que c'est un drame. je dirais, qui a frappé Paris. Il y a une déflagration monumentale, des détonations. Les badauds sont certainement frappés psychologiquement, comme cela a été dit par Amaury.
Il y a eu un mouvement de panique un peu dans le
mouvement
quartier.
De panique. On a vu le périmètre de sécurité tout de suite avec les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers de Paris qui sont de grands professionnels pour aller sauver des vies. Voilà, on n'est pas tiré d'affaire encore. On ne connaît pas l'origine. On ne sait pas s'il y a encore des personnes ensevelies sous les pierres. Il y a des gens qui sont évacués de leur domicile personnel. C'est un traumatisme terrible.
Céline Pina, il y aura des victimes collatérales, parce qu'on dit aussi beaucoup seront impactés, on pourrait revenir sur le plan scientifique et médical, par le son assourdissant de cette explosion. C'est ce qui a marqué la plupart des témoins qu'on a pu entendre depuis hier. Attention aux conséquences, on pense aux acouphènes, à toutes ces choses qui peuvent être au long cours finalement.
Oui, il y a toujours dans ce type d'accident des séquelles qui peuvent rester. Après, je pense que probablement la première réaction, c'est d'abord d'être heureux, d'être en vie. Et de se poser la question de ceux qui sont gravement blessés. Voilà, on peut être une victime collatérale, mais là, aujourd'hui, on a des gens qui sont à l'hôpital, on a des gens qui ont leur pronostic vital engagé. Je crois que c'est vers eux qu'on doit d'abord se porter notre attention. Et quant au mouvement de panique, il peut aussi s'expliquer par le fait que Paris est une ville polytraumatisée. C'est une ville dans laquelle c'est la capitale. Donc si vous voulez faire un attentat retentissant, c'est là que vous allez le faire. Et je pense que les gens, quand ils ont entendu cette énorme explosion dans un quartier qu'ils voient comme étant un quartier riche, donc un quartier dans lequel ils pensent que les immeubles sont entretenus, donc ils n'ont pas forcément pensé tout de suite à un souci de réseau ou à un problème de gaz. Ils ont dû penser sans doute à une attaque et ça a dû aussi provoquer une panique terrible.
Ben non, mais moi, quand je m'adressais effectivement hier à des pompiers ou des personnes de la sécurité civile, ils m'ont tout de suite dit, ça nous fait penser, j'allais dire même à l'année 2019, qui était un peu une période noire. Vous avez eu en janvier, vous avez eu effectivement l'explosion de la rue de Trévise, 4 morts. Ensuite, en février, un mois plus tard, vous avez eu l'incendie de la rue Erlanger, qui était aussi criminel. Et en avril 2019, vous avez l'incendie de Notre-Dame. Tout ça se passe à Paris, et c'est vrai que pour les... J'allais dire, presque heureusement, entre guillemets, mais les pompiers, du coup, savent faire aussi, parce qu'ils ont des exercices...
Ils ont été un petit peu aguerris par ces dernières années. Une question, allez, on va passer quand même au sort du Titan, parce qu'évidemment, les heures se sont égrenées. Saura-t-on ce qui s'est passé à bord? Où est-il? Quel espoir subsiste à cette heure de retrouver un jour des passagers vivants? Alors, on s'accrochait évidemment ces dernières heures, jusqu'à ce matin, il faut le dire ainsi, hein, à ce signal récurrent qui avait été entendu. Ce son qui semblait être répercuté sur une paroi. Il faut bien dire que l'espoir s'est amenuisé quand même au fil des dernières heures. Regardons ce qui était en jeu. Maureen Vidal sur cette phase critique des dernières heures.
Au large de l'océan Atlantique, la situation devient critique. 5 jours après la disparition du Titan et de ses 5 passagers, les réserves d'oxygène pourraient s'épuiser rapidement, puisque l'hypothétique autonomie de respirable en plongée était de 96 heures. La vaste opération de recherche continue, mais le submersible reste introuvable.
J'avais cru comprendre que ce Titan avait été conçu pour qu'en cas de crise, il remonte automatiquement à la surface, déclenche une sorte de dispositif de flottabilité qui le ramènerait à la surface. Cela ne s'est pas produit. Je pense donc, compte tenu des preuves, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échec de communication au début, mais d'une sorte d'échec global catastrophique. Vous pouvez être sûr que le pilote, qui est une personne expérimentée, s'il subit une panne de communication, fera tout son possible pour amener ce navire à la surface.
La zone de recherche s'étend en surface sur 20 000 km². Sur le Polar Prince, le navire d'où est parti le Titan, les moyens déployés par les armées américaines et canadiennes continuent d'arriver.
Michel, on s'est beaucoup focalisé sur cette réserve d'oxygène, sur ces fameuses 96 heures. Peut-être y a-t-il eu une avarie à bord bien avant ?
C'est l'hypothèse la plus probable. À partir du moment, perdez pas de vue les choses, à partir du moment où vous avez un arrêt complet des télécommunications, c'est donc soit les émetteurs sont en panne, mais on les triple, c'est comme sur les avions, soit je n'ai plus de source d'énergie. Et si j'ai plus de source d'énergie, comme c'est les batteries à bord de cet engin, ça veut dire que c'est passé quelque chose de très grave. Oui. Et quelque chose de très grave, c'est l'arrivée de l'eau à l'intérieur. C'est-à-dire que l'engin implose en raison de la pression. Vraisemblablement, il devait être au bout de 2 heures, c'est ce que l'on sait. C'est-à-dire qu'il devait être à peu près à 3000 alors qu'il devait descendre à 4000. Et là, il s'est passé quelque chose. Mais ce type d'engin, logiquement, quand ils sont conçus, sont toujours à flottabilité positive. C'est-à-dire que de même, il y a des lestes. Quand il y a un problème, on appuie sur un bouton, on largue les lestes, ça l'allège, et de lui-même, il doit remonter comme un bouchon à la surface, où là, on peut le repérer et intervenir. Or là, à la surface, les avions patrouillent, des sonars ont été déposés pour écouter, et jusqu'à ça n'a rien donné. Donc si on ne voit rien en surface au bout de 4 jours, c'est que ça se passe au fond.
Alors pourquoi s'est-on focalisé sur ces bruits ? C'est pas tellement les sons qui ont intrigué, autant que la récurrence, c'est-à-dire qu'ils intervenaient à intervalles réguliers.
Je ne suis pas spécialiste, les océanographes américains disent on n'a pas l'explication. Pourtant, ils sont habitués à écouter. Ouais. C'est pas le monde du silence, hein, la mer. Il y a beaucoup de choses. Il y a les hélices de bateaux, il y a les animaux, il y a des trucs. Alors, ce qui est troublant, c'est que c'est à intervalles réguliers. La deuxième remarque, c'est tout de même, en cas de détresse, et il y avait un professionnel au moins à bord, un Français.
Il aurait envoyé
le SOS. Mais bien sûr, en morse, le SOS.
Oui.
Point. Donc, on ne comprend pas qu'un top, et puis on attend une demi-heure, et puis un autre, ça ne tient pas la route.
Sauf si lui n'était plus en vie à ce moment-là, ce qui est une possibilité. Et puis surtout, alors, j'aimerais quand même qu'on en vienne à cette polémique autour des tests, la fameuse certification de l'appareil, parce que ça a quand même valu le licenciement d'un des responsables qualité, qui en gros s'est fait remercier pour avoir demandé plus de tests concernant la résistance de l'appareil.
Parce que quand vous regardez bien, c'est assez surprenant ce qui a été fait. Et pour moi, il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est que l'on a fait une forme d'un cylindre. Le cylindre, c'est parce qu'il résiste le mieux à l'énorme pression. Tout de même, on est à 400 bars.
Ouais.
C'est-à-dire sur la taille d'un ongle, j'ai 400 kilos, une demi-tonne. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte. Et donc, j'ai plongé avec ce sont des sphères en titane, qui est un métal léger, mais extrêmement résistant. Donc, tous sont conçus comme cela, le compartiment habitable. La partie extérieure, elle, va être en équipression. Elle est prévue pour résister à 400 bars. Mais la partie où sont les hommes à bord, qui est étanche, reste à la pression atmosphérique et elle est toujours en titane. Là, c'est un cylindre. Deux, il a choisi la fibre de carbone. La fibre de carbone, c'est très résistant. Seulement, est-ce que la fibre de carbone est assez résistante? Et surtout, la liaison entre le hublot à l'avant, qu'on voit derrière vous, la partie avant, sphérique, la calotte sphérique à l'avant, l'observation, et le reste.
On a dit qu'au-delà de 1500 mètres, c'était pas terrible pour la résistance.
Déjà, c'est ce qu'ils ont, ouais, c'est ce qu'ils ont dit.
Hublot.
Donc peut-être c'était un engin, il était peut-être valable pour plonger à 1500 mètres, mais malheureusement pas à 4000.
Karim et Céline, au fond, ce rêve, maintenant qu'on en sait un petit peu plus et qu'on désespère de les revoir, il était un peu fou. C'était un peu fou d'y aller.
Aller sur la Lune, aller donc au fin fond des fonds sous-marins à cette profondeur, oui, c'est toujours un peu fou, mais c'est aussi les défis que l'homme a envie de s'octroyer, de dépasser toujours le prétendument possible. C'est vrai qu'on se dit après coup, avec les explications de Michel sur le plan technique et autres, qu'il y avait un risque considérable.
C'est de l'argent aussi. Il y a la découverte. Ok, quand on a plongé pour l'épave, la retrouver, etc. Bravo, génial. Mais il y a un problème d'argent. Hein.
Céline, que vous inspire au fond cette aventure, cette tragique aventure sans doute ?
Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'apparemment, on a des témoignages de gens qui ont emprunté même vaisseau pour d'ailleurs toujours aller faire une forme de tourisme un peu bizarre autour du Titanic. Et donc, il semblerait qu'il soit déjà descendu et remonté. Alors, est-ce qu'il était descendu aussi profond?
On ne sait pas.
Voilà, mais ce qui est surprenant, c'est qu'on nous dit effectivement le hublot n'était pas conçu pour résister, les soudures appelaient questionnement, etc. Et dans le même temps, on a des témoignages de gens qui ont déjà fait cette entre guillemets excursion, et y compris quelqu'un qui dit mais nous aussi, quand on a plongé les deux premières heures, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu chaotique et puis les choses se sont arrangées. Donc, ça pose quand même énormément de
questions.
C'était
pas si bien ficelé que ça.
Oui, ouais. Mais apparemment, malgré tout, quelqu'un comme Narjolet ne serait sans doute pas rentré dans un petit submersible qui n'aurait pas fait la preuve qu'il était capable
bien
de
sûr.
Le faire. Donc, après, les questions qui se posent, c'est est-ce que c'est très décent d'aller dans un cimetière ? Et en revanche, ce que je trouve particulièrement indécent est la polémique qui consiste à dire « Regardez, ils sont prêts à sauver des gens parce qu'ils sont milliardaires, mais... » la France ou les États-Unis n'en ont rien à faire de ceux qui meurent en mer. Et ça, je trouve ça très choquant Merci. Alors que ces gens sont sans doute déjà morts au fond de l'eau.
Merci beaucoup. Merci Michel. Grand merci de nous avoir éclairé cet après-midi. On ressort toujours un peu plus intelligent hein, des plateaux avec vous. Non mais c'est vrai, je pense que tout
le monde j'apprends plein de choses.
Le ressent
à chaque fois, moi aussi.
Merci. Et dans un instant, évidemment, on se retrouvera pour parler de ce petit phénomène qui est en train de monter quand même. Les villes de taille très moyenne qui sont rattrapées par la délinquance. Amaury est venu avec les chiffres. À tout de suite. Nous sommes de retour, ou plutôt nous serons de retour juste après avoir pris connaissance des dernières infos avec Augustin Donadieu aujourd'hui. C'est son JT. Bonjour Augustin.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. 11 départements sont toujours placés en vigilance orange pour les orages sur la façade est du pays jusqu'à ce soir. Météo France précise que ces orages perdront progressivement en intensité au fil des heures. Les trois quarts du pays sont en revanche concernés par la vigilance jaune, crue, pluie et inondation, à l'exception de la Bretagne Nord où le soleil rayonne ce jeudi. Le gaspillage alimentaire semble avoir reculé en un an selon une étude parue aujourd'hui. En revanche, les jeunes de 18 à 24 ans seraient moins assidus que leurs aînés. 44% d'entre eux jettent par exemple des fruits une fois par mois comparé aux plus de 65 ans, qui sont 21%. Alors pour lutter contre ce gâchis, une entreprise du Finistère vend à bas prix des produits qu'elle a sauvés de la poubelle. Et en plus de cela, elle emploie 60 personnes qui étaient éloignées du monde du travail. Reportage à Saint-Paul-de-Léon, grande plaine légumière de Bretagne, où est née l'entreprise en novembre 2021. C'est avec Mickaël Chailloux.
Bah, vous voyez, on a des courgettes qui sont bien trop grosses, des échalotes qui, elles, sont bien trop petites.
On les appelle les écarts de tri, des légumes qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution. Ici, on les récupère pour les revendre sous forme de panier à prix cassé.
Vous voyez le poids, vous avez 8,3 kg là, et il est vendu 9,99.
La grande distribution, elle n'en veut pas à ce jour parce qu'elle a écrit des cahiers des charges il y a 30 ans qui les écartent. C'est ce qu'on appelle les fameux écarts de tri. Hein. Pour rappel, c'est quand même 20% de la production française qu'on jette à minima tous les jours à la poubelle.
Cet ancien cadre de la grande distribution ne supportait plus cette image. Un tapis qui envoie au rebut tous ses légumes hors calibre. En 18 mois, il a ouvert en Bretagne 50 points relais, Fini Terrestre, c'est leur nom, où il vend 3000 paniers par jour.
Évidemment le prix, hein, le prix qui est extra. Moi je m'attendais à avoir des produits un peu sous-classés et en fait je me suis retrouvé avec des produits avec un très bon goût.
Quand on voit qu'à l'heure actuelle on parle souvent d'obésité, de malbouffe ou tout simplement de non-bouffe, il n'est pas admissible qu'on puisse jeter autant dans un pays aussi développé que le nôtre.
Sur le même principe, Fini Terrestre vend des fruits mais aussi de l'épicerie et même du poisson frais grâce à un accord avec un marieur de l'Orient. En septembre, depuis Saint-Paul-de-Léon, une franchise va être lancée. Objectif, ouvrir 1000 supérettes anti-gaspi partout en France.
Les montagnes de déchets s'accumulent à Marseille. Les agents de propreté sont en grève depuis maintenant 10 jours. Résultat, les poubelles débordent, notamment dans la gare Saint-Charles ou dans les couloirs du métro. Et ce, à 4 jours de l'arrivée du président, Emmanuel Macron doit se rendre dans la Cité phocéenne de lundi à mercredi prochain. Et en sport, Victor Wembanyama accueilli en rockstar aux États-Unis. Le Français entre dans la NBA par la grande porte. Il intègre en effet l'équipe des Spurs. Et outre-Atlantique, on parle déjà de la Wembamaniana. Retour sur son arrivée à New York avec Thibaut Duclos.
Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Un étranger comme chez lui, à New York, Victor Wembanyama, phénomène dans une ville à son image, sans limite.
I'm trying to be the best, so you know I got such high expectations for myself. I don't like to do things halfway, so.
Aussi à l'aise dans la rue que dans la langue, à 19 ans seulement, les États-Unis vont l'accueillir, mais la folie Wembanyama dépasse déjà les frontières.
Au-delà d'être une responsabilité, c'est une envie de ma part d'influencer positivement le monde, ouais, notamment la jeunesse.
Leader déjà dans son jeu, préparé, répété et aiguisé entre Nanterre et Boulogne, un grand avec des mains de petit, forcément, ça fait parler.
No one is going to stop me from dribbling the ball and getting the ball up and shooting threes. Nobody is going to stop me from doing it.
La Ligue américaine déjà la double sans retenue au nom des grands anciens.
I've never seen a press conference for one guy. Every draft prospect has their own table. Victor had a press conference. That is because the attention is as big as I've seen since LeBron James came into the league.
Des attentes énormes pour un garçon au début de son aventure qui laisse apparaître enfin une discrète fissure.
I can't really describe how I feel right now, but I just know I'm going to have trouble sleeping tonight.
Sauf énorme surprise, Wembanyama prendra la direction de San Antonio pour lancer sa carrière NBA sous les yeux du monde entier.
Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à 16h tout de suite, 90 minutes info avec vous Nelly Denac et vos invités.
Merci beaucoup cher Augustin, tandis que sur ce plateau, Élodie Huchard du service politique nous a rejoint. Bonjour Élodie, on va parler de ces petites villes rattrapées par la délinquance, ça n'est pas un phénomène isolé, les agressions de personnes ont même bondi dans ces localités qui sont comprises entre 5000 et 20 000 habitants, c'est la fourchette qu'on a retenue pour établir l'étude. Amaury Bucco est resté. Alors Amaury, ça se passe un peu partout en France. Il faut dire que ce classement finalement ne discrimine pas en fonction des régions. Qu'apprend-on sur deux catégories essentiellement ?
Oui, alors en fait, vous disiez les petites villes. Ce qui est intéressant même, c'est que le Figaro parle de la France des bords de mer, des clochers, des sous-préfectures, cette espèce de France d'apparence très tranquille qui finalement ne l'est plus. Alors, il y a deux choses qui ont été évaluées. D'abord, du côté des violences, ce sont les violences dans la voie publique, c'est-à-dire les agressions. Or, donc, violences intrafamiliales. Alors là, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, ça a explosé. On est passé en moyenne, hein, pour les 1650 communes qui ont été évaluées, de 23 000 faits d'agression en 2016 à 32 000 faits. C'est une augmentation de 38%. Alors, il y a eu une espèce de parenthèse enchantée avec le Covid, bien sûr, puisque forcément, les gens étaient confinés chez eux, mais ne sortaient plus dans la rue et ne s'agressaient pas forcément. Alors, ensuite, le Figaro fait une chose intéressante, c'est le classement de ces villes. Alors, vous voyez effectivement que c'est des villes, a priori, inconnues, enfin, ou du moins pas connues pour leur violence. Vous avez par exemple le Cateau-Cambrésis dans le Nord, où là, les agressions ont quadruplé en 6 ans, en passant de 20 en 2016 à 79. Vous avez aussi Marmande, la cité de la tomate, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans Lot-et-Garonne, qui est là, dans la troisième place du classement et qui, en quelques années, eh bien, a augmenté de 120% en termes d'agressions, passant de 66 agressions recensées à 146 en 2022.
Alors pourquoi ? Comment on explique tout cela ?
Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que ces chiffres ne donnent pas la raison. Mais alors je me suis adressé à plusieurs commissaires qui gèrent notamment des départements, et voilà, ils m'ont donné environ 8 raisons, alors je ne vais peut-être pas toutes les dire, mais au moins les principales. La première, c'est quand même un phénomène lié à l'immigration qui est l'explosion des squats un peu partout en France et l'augmentation de la part de la délinquance étrangère dans la délinquance globale. Ensuite, vous avez la difficulté, on l'a vu avec Annecy, à prendre en charge les malades mentaux, des personnes qui, en général, ressortent, ne sont pas, sont en rupture de médicaments, de traitement, et donc recommencent, récidive. Ensuite, vous avez aussi l'hyper-procédure, c'est-à-dire que les gens vont beaucoup plus facilement porter plainte, et donc ça fait aussi une augmentation, si vous voulez, forcément de la comptabilité des agressions, l'augmentation des armes, l'augmentation des manifestations un peu partout en France avec les gilets jaunes, la réforme des retraites, et puis surtout, le dernier argument, je dirais, c'est la baisse de l'autorité, c'est-à-dire que maintenant, notamment hein, dans le cadre de violences conjugales, les policiers se rendent au domicile pour interpeller le mari ou la femme, et en fait, la personne se rebelle, et donc on tombe sur une violence sur PDAP, personne dépositaire de l'autorité publique, et donc, là encore, c'est une agression supplémentaire qu'on n'avait pas forcément avant.
Merci beaucoup, Amaury, d'être passé nous développer tout ça. On vous retrouvera bien sûr sur notre antenne, y compris dans Punchline tout à l'heure. On va voir avec Alessandro Lavarda, secrétaire régional d'Alternative Police. On va aller un petit peu plus loin sur ces questions. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. J'imagine que vous venez de nous écouter. Est-ce que vous corroborez déjà tout ce constat ? Est-ce que ces 8 catégories, on les retrouve finalement, ces explications, à peu près à toutes les échelles, à tous les degrés de villes qui sont touchées aujourd'hui ?
Augmenté sur les communes rurales, touche essentiellement les grandes villes, hein, les villes de plus de 100 000 habitants, et souvent les villes de région comme Toulouse, Nantes, Marseille, Paris. Donc, mais cependant, là, on note aussi, hein, comme vous l'avez dit, hein, c'est un fait, l'augmentation de la délinquance est partout, et même dans certains coins de campagne qui étaient relativement calmes, on recense des faits de violence. Hein. Vous voyez aussi avec des élus qui sont agressés. Voilà, il y a une augmentation de violence qui est indéniable avec différentes causes. Hein. Je vois aussi qu'il y a aussi, on en parle un peu moins en ce moment, mais ça faisait la une de l'actualité il y a quelques temps, les refus d'obtempérer. Hein, c'est devenu une habitude. Il y a quelques jours encore en banlieue bordelaise, là où j'exerce, on a eu un refus d'obtempérer. Heureusement, ça s'est bien terminé grâce au professionnalisme de mes collègues. Ils ont pu interpeller les deux individus après une assez longue poursuite. Voilà. Donc tous ces faits corroborent aussi une certaine insécurité que ressent les citoyens.
Monsieur Lavarda, le trafic de drogue, est-ce que la drogue, qu'elle soit liée au trafic, c'est-à-dire au règlement de compte entre dealers, ou à la consommation, qui fait que ça entraîne parfois des comportements erratiques, est-ce que ces deux choses sont un facteur aussi ?
Bien sûr, parce que ce qui importe, ce que nous donne comme ressenti les citoyens, c'est le sentiment d'insécurité. Et quand vous avez un point de deal qui est ouvert dans une banlieue ou dans une ville, automatiquement, ça engendre un sentiment d'insécurité parce que ça squatte devant les halls d'immeubles, ça traîne, la population va, vient, ça engendre tout ça, un fort sentiment d'insécurité qui est très malsain et qui fait enrager nos amis, nos citoyens, quoi.
Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'un exemple que vous connaissez encore mieux, c'est celui de Bordeaux, à la lumière de cette violente agression, bien sûr, de cette septuagénaire et de sa petite fille il y a quelques jours. Ça nous a tous glacé le sang. Vous nous parlerez des problèmes de sécurité dans cette grande ville que vous maîtrisez mieux que les autres. Un tour de table sur ce classement, sur ce tableau. Karim, on entend, c'est vrai, encore cette expression de sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il faut arrêter avec le sentiment d'insécurité ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de dire, voilà, il y a de l'insécurité et nul n'est indemne, en fait, face à cette insécurité ?
Je ne sais pas s'il faut arrêter. Hein. En tout cas, ce qu'il faut dire très clairement, c'est qu'il y a une montée de l'insécurité très concrète. Physique, verbal, dans le pays. Il y a des comportements qu'on ne connaissait pas il y a encore une dizaine d'années. Les refus d'obtempérer, il y en a même toutes les 20 minutes. Donc, toutes les couches sociales ont des comportements qui, parfois, surprennent les policiers eux-mêmes. Il n'y a plus de contrôle banal. Donc ça, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Les trafics de drogue qui s'étalent un peu partout, grande métropole, on le savait. Tant que ça cantonnait les quartiers sensibles, on avait l'impression de pas trop s'en soucier, même si les habitants étaient prêts en otage. Maintenant, ça touche les villes moyennes, ça touche les petites villes. Cavaillon, 25 000 habitants, au cœur du Luberon, des règlements de compte qui se répètent. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on réagisse. Les agressions, l'agression, vous l'avez dit, de Bordeaux, qui nous a, qu'on a trouvé tous ignobles. On se met tous à la place, on se dit, ça, nos grand-mères, notre petite fille, notre fille. Mais je veux dire, oui, évidemment qu'il y a une insécurité. Après, l'insécurité réelle augmente aussi le sentiment d'insécurité. Donc, et les deux ne sont pas opposés. Donc, parce qu'effectivement, vu qu'il y a une réelle insécurité, ben, on a peur en toutes circonstances. Parce qu'on se dit qu'il peut arriver quelque chose à tout moment. Vous prenez les transports, vous êtes dans la rue sur la voie publique. Donc, alors, on ne va pas tomber dans une psychose. Mais la réalité, c'est que tout peut arriver à n'importe quel moment et avec un phénomène de gravité extrême qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Donc, ces forces de l'ordre aujourd'hui sont confrontées. C'est le dernier rempart pour moi. Il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité. Il y a des comportements, je dirais, qui apporte une forme de délitement de la société. Il y a de plus en plus de violence. Oui, il y a de l'insécurité dans le pays qui touche toutes les villes et toutes les strates de la population. C'est une réalité, on ne peut pas le nier.
Je lisais justement chez nos confrères de Figaro ce matin, Guéret dans la Creuse. Enfin, je veux dire, on a souvent pris l'exemple de la Creuse. J'espère que les habitants de la Creuse, qui a un magnifique département, me pardonneront ce commentaire, mais c'est souvent considéré comme quelque chose de très rural, très champêtre, un peu à l'abri de tout. Et on a vu que même dans cette ville, la délinquance, je crois, a explosé de l'ordre de 38% en l'espace de 5 ou 6 ans.
Mais je pense que on n'échappe pas à un mouvement d'ordre général. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce mouvement d'augmentation de la violence, qui est lié aussi à une part de décivilisation, pourquoi est-ce qu'il se cantonnerait aux grandes villes? Il met sans doute un peu plus de temps à s'étendre, mais il n'a pas de raison de s'arrêter aux frontières du périphérique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, par exemple, si on prend le cas du trafic de drogue, c'est un commerce. Quand vous avez un commerce, vous avez intérêt à multiplier le nombre de clients, à avoir de plus en plus de points de vente, à quadriller un territoire. Et donc, ce quadrillage est en train de se mettre en place. Dans le même temps, on sait qu'aujourd'hui, la production, notamment de cocaïne, mais aussi de ce qui permet de faire le hashish, tout ça explose et il faut bien l'écouler. Et il faut d'autant plus l'écouler que dans le même temps, il y a une concurrence des drogues de synthèse qui sont parfois plus faciles à composer, en plus à partir d'éléments légaux au départ. Donc pour ceux qui doivent écouler les grandes masses de la drogue, il faut trouver une autre clientèle, un autre type de clientèle. Finalement, la recomposition territoriale au niveau de la violence et de la délinquance, elle se fait. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse à la hauteur. Ce n'est pas qu'une situation se dégrade qui soit dramatique, ça peut arriver. C'est quand la réponse des autorités publiques n'est pas à la hauteur, voire que les autorités publiques, ont intégré leur impuissance. Et l'intégration de leur impuissance, les Français l'entendent dans ce discours permanent qui dit « la protection de la sécurité est quelque chose de global ». Ce que les Français attendent, c'est « démerdez-vous parce que nous, on n'y arrive pas ». Et ça, ça renforce encore la peur.
Et puis Élodie Huchard, tout à l'heure, j'ai souvenir d'Amaury Bucaud qui nous disait « parmi les facteurs avancés, il y a aussi… » l'immigration, ou en tout cas peut-être le fait de disséminer des migrants, ça c'est une volonté présidentielle sur le territoire. Alors c'est trop récent pour qu'on ait un retour d'expérience sur ça, mais c'est vrai que en tout cas, comment dire, ça crée des frictions au niveau des localités concernées. On l'a bien vu entre les maires qui ne veulent pas, les concitoyens qui sont informés parfois à la dernière minute sur l'installation de CRA. Tout cela renforce quand même le sentiment aussi.
Oui, et puis on parle de petites communes qui ne sont pas prêtes à affronter ces agressions, etc. On n'est pas sur des grandes villes où vous avez mécaniquement les caméras qui sont un peu braquées dessus, des envois de CRS 8, etc. Donc dans des plus petites villes, effectivement, quand il commence d'y avoir cette insécurité, des attaques qui augmentent, ça crée un sentiment évidemment de crainte généralisée. Et donc on n'a pas forcément envie de recevoir à ce moment-là des cras, comme vous le disiez, et surtout face à des maires qui expliquent en permanence qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'ont pas les moyens déjà de faire face à ce qui leur arrive et qui en fait ne sont pas du tout volontaire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce sont des décisions qui partent d'en haut, qui sont ensuite diffusées dans la société. Ce n'est pas forcément un bon moyen d'intégration quand déjà localement, les gens ne sont pas prêts à les accueillir.
Alors, retour à Bordeaux. De multiples violences dans le quartier Saint-Paul, entre riverains, des jeunes qui sont en quête de crack, des commerçants également. C'est un endroit qui se dégrade de plus en plus. Et les habitants, là aussi, ne se sentent plus en sécurité. Regardez ce reportage, Jules Bedeau, Régine Delfour, Thibault Marcheteau.
Commerçante depuis 35 ans, Danielle ne se sent plus en sécurité dans ce quartier historique de Bordeaux. Il y a 15 jours, elle a subi une nouvelle agression.
L'insécurité à Bordeaux, on le ressent depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Mais surtout, là, depuis quelques mois, on voit beaucoup de craques, beaucoup de gens très, très énervés. Et on a l'impression qu'ils se promènent dans la ville et qu'on ne leur dit rien.
Le quartier Saint-Paul, au cœur de la ville, devenu un lieu de consommation de drogue à ciel ouvert, se vide alors peu à peu de ses habitants.
Nos voisins ont quitté Bordeaux. Moi, j'ai deux enfants en bas âge. On a vécu 2 ans et demi catastrophiques avec des craqueurs qui étaient à 10 mètres de notre porte d'entrée 24 heures sur 24. C'était épouvantable. Épouvantable, il n'y a pas d'autre mot.
Au cœur du problème, la présence d'un centre de soins et d'accompagnement des usagers de drogue, géré par l'association La Case depuis 2011, qui attire de nombreux consommateurs de crack. Face à cette situation, les habitants réclament des solutions pour ne plus faire face à ces consommateurs dans un quartier très touristique et en finir avec ce sentiment d'insécurité permanent.
Retour avec vous, Alessandro Lavarda. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional d'Alternative Police. Est-ce qu'on peut dire que le maire de Bordeaux, qu'on a entendu juste après l'agression de cette dame et de sa petite fille, n'a pas pris la mesure du problème ? C'est ce qu'on comprend, avec les différents témoignages qui nous reviennent. On a envoyé des équipes sur place. Ils nous disent, franchement, Pierre-Emmick, il est en dessous de tout. Vous confirmez de votre point de vue ?
Ouais, tout d'abord, je tiens à féliciter mes collègues de la BAC qui ont permis l'interpellation, il faut rappeler, très rapidement de l'auteur des faits. Hein, donc, ils ont pu, je rappelle les faits, ils ont visionné rapidement la vidéo, ils ont pu identifier l'individu et ils l'ont interpellé 2 heures après, pas très loin de l'endroit de l'agression. Donc, pour vous faire remarquer que la police est efficace. Autre chose, la mairie, moi je ne voudrais pas rentrer dans ce débat, c'est une des prérogatives du maire, la sécurité, la tranquillité publique. Cependant aussi, alors je ne suis ni là pour l'accabler ni pour le défendre, mais il faut remarquer que les effectifs de la police municipale ont augmenté et qu'il y a une très bonne entente entre police municipale et police nationale, au moins sur Bordeaux. Donc bien sûr, il y a des axes de travail encore à faire, on peut toujours améliorer des choses, comme on pourrait aussi améliorer la vidéo, parce que c'est sur ce quartier-là que je connais assez bien. Je peux vous dire que c'est un quartier assez piétonnier, donc la vidéo est vraiment essentielle à mettre en place.
Vous nous dites quand même que le continuum de sécurité, comme on dit, est assuré, quoi. Ça fonctionne maintenant.
Ça fonctionne. Après, je ne veux pas dire que tout se passe bien. Le quartier, bien sûr, il y a beaucoup de SDF qui se promènent, il y a des gens alcoolisés. Après, la police municipale et la police nationale font le maximum. Après, bien sûr, hein, moi, si on pouvait avoir des effectifs de plus, hein, je ne dirais pas non. Parce que l'essentiel aussi pour gérer cette délinquance, c'est une présence sur le terrain. Une présence d'uniforme sur le terrain est très, très efficace, hein, dans ce genre de problème. Et après aussi, il n'y a pas que la façon répressive. Il y a un ensemble, il y a une vision globale de l'insécurité. Il faut que les services sociaux aussi interviennent, puissent prendre en charge ces personnes, ces toxicomanes qui errent dans les rues, qui n'ont rien à faire dans des états lamentables des fois dans la rue. La police est là pour interpeller si besoin. Après aussi, les autres services de l'État et de la mairie doivent prendre aussi le relais et chacun doit prendre part. Ça part de responsabilité dans ces problèmes.
Merci pour ces paroles assez, assez sages, hein, Alessandro Lavarda. Mais ça montre quand même, Karim Zeribi, qu'il y a comment dire, une différence d'appréciation entre les moyens qu'on met en œuvre. Visiblement, lui-même ne conteste pas à la mairie le fait de l'avoir fait, et la perception ou le retour d'expérience qu'en ont les riverains. Parce que vraiment, dans tous les témoignages qu'on a recueillis depuis 2-3 jours maintenant, c'est assez unanime. On dit, voilà, il y a une insécurité à Bordeaux qui n'existait pas il y a encore 5-10 ans.
Oui, ça, c'est parce qu'on a pris beaucoup de retard sur certains services publics, dont celui de la sécurité. Et puis, la question du continuum qui consiste à coproduire la réponse sécuritaire, ça veut dire mettre des effectifs de la police municipale, mais pas au détriment de ceux de la police nationale. Ouais. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui qu'on ait plus de bleus dans la rue, que ce soit la police nationale, il faut qu'elle soit renforcée, et la police municipale, il faut qu'elle soit renforcée et équipée. Moi, je ne crois pas qu'il faille toujours cibler la couleur des maires. Ça fait 3 ans qu'il est élu, ça fait pas 3 ans qu'il y a un phénomène d'insécurité. Je veux dire, ce phénomène d'insécurité, il est monté impuissant dans notre société, on ne l'a pas appréhendé. Alors après, qu'il y ait des maires en fonction de leur sensibilité, qui refusent la vidéoprotection, qui est un élément prépondérant en matière de sécurité, notamment pour élucider et prévenir, là je suis d'accord.
Il y a 20 ans, c'était tabou, hein, d'en parler. 20-25 ans.
Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire, indispensable. Il faut du bleu sur la voie publique. Oui, il faut recruter des femmes et des hommes. Et après, il faut une réponse judiciaire. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter les délinquants. Qu'est-ce qui se passe derrière ? 72 000 détenus, 60 000 places de prison, pas de centre d'éducation renforcé dans chaque département du pays, on en a 50 alors qu'on a 100 départements, pas d'hôpitaux psychiatriques fermés pour mettre hors d'état de nuire 22% des détenus qui relèvent de psychiatrie, et des centres de sevrage soi-disant de toxicomanes qui sont au cœur des villes. Excusez-moi, mais la réponse, elle est quand même pas très satisfaisante au moment où on se parle.
Mais c'est vrai que sur le plan politique, il a eu très mauvaise presse, Pierre Rémy, parce que la manière dont il a répondu quand même à l'agression de cette femme paraissait un peu petit bras, quoi. C'est-à-dire qu'il était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de lui en tant que premier élu. Et ça lui a beaucoup été reproché.
Oui, parce que c'est là où on disait effectivement il ne faut pas forcément cibler les maires uniquement en fonction de leur couleur politique. Mais là, on voit bien que cette vidéo qui est sans appel, que peut-être tout le monde a vue et où on voit la violence, il a quand même du mal à la dénoncer. Et il y a une gêne de dénoncer des faits. Ce n'est pas parce que vous dénoncez ces faits que ça veut dire que Bordeaux, dans la ville entière, est un endroit où il y a de l'insécurité. C'est juste un fait dont on parle. Et forcément, quand on voit finalement maintenant aussi à force de témoignages tous les témoignages qui s'enchaînent, qui vont dans le même sens, on se dit, est-ce que le maire lui-même a conscience de l'état de sa ville quand il explique, oui, il y a des problèmes, on en a conscience, on regarde les solutions. Oui, c'est très bien, mais ça prend du temps, certes, mais dans les mots, il n'y a pas vraiment de mots très forts, ne serait-ce que dans la condamnation de l'agression.
Et puis on a vu aussi cette séquence tournée d'un conseil municipal où la responsable de la sécurité dit, avec presque une pointe de fatalisme, ça nous arrive à tous, au fond... On s'y attelle, mais on n'a pas encore trouvé la solution. C'est quand même dommageable.
Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi. Il y a une forme de dédramatisation et d'acceptation.
Oui, comme s'il fallait renoncer à tout.
Et pire même, il y a aussi de la part d'une responsable politique, elle cherche ses mots, elle est extrêmement maladroite dans son expression. Elle donne l'impression de ne pas être au niveau. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, on a une impression d'incompétence. On se dit, derrière cette personne, je ne serai abritée de rien. Donc, on a aussi l'impression parfois, quand on parle d'insécurité avec certains élus, que le problème est plus la question de leur propre image que le fait de regarder en face une réalité. Et ce que l'on reproche à M. Urmic, c'est pas ce qui est arrivé dans sa ville. Bien sûr qu'il n'y est pour rien. C'est en fait d'être incapable de mettre des mots sur ces souffrances-là. Et puis d'accepter aussi l'explosion de la violence à Bordeaux, parce qu'il se trouve que derrière, il y a des chiffres. que son opposition a communiqué et sur lequel je crois qu'il y a une augmentation à peu près d'une année sur l'autre de 12-13% des agressions. Et enfin, un dernier petit point, la façon dont on se positionne politiquement donne un signal. Je pensais notamment, par exemple, à Grenoble. On parlait tout à l'heure du trafic de drogue. À Grenoble, la drogue, elle se vend en plein centre-ville, pas dans des quartiers, au vu et au su de tout le monde, depuis des années, et même la mairie ne le dénonce pas.
Moi, je trouve dramatique qu'il n'y ait pas une unité politique derrière cette question de l'insécurité. Lyon, on en parle fréquemment.
On jamais, tout le monde est là pour prêcher pour sa paroisse.
Il faut arrêter de jeter la patate chaude aux voisins, en l'occurrence l'État, quand on est
élu d'une maire. Vous y croyez encore,
hein, Oui, j'ai envie d'y croire, parce que on ne peut rien construire sur le désordre, Nelly. On ne peut rien construire dans les zones. Une ville ne peut pas être attractive s'il y a de l'insécurité. Moi, ma ville, Marseille, elle est magnifique. C'est peut-être la plus belle de France ou d'Europe. Elle ne l'est peut-être pas parce qu'il y a ces phénomènes d'insécurité. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Chacun qui connaît Marseille va te dire c'est une ville magnifique. Mais il y a toujours ce mais. On ne peut pas aller dîner le soir tranquille en famille. Donc, on a peur même au centre-ville, au Vieux-Port, potentiellement de se faire arracher le collier. On te dit, on te conseille de ne pas mettre la montre, une belle montre, si tu as une belle montre. Mais où va-t-on? C'est pas acceptable. Non, puis il faut qu'on lutte contre ces phénomènes, pas qu'on soit fataliste.
Bah, bien sûr, mais enfin, les politiques, avant de les réconcilier, merci, hein, va falloir
se mettre. Il y a aussi plus de contrôle social, c'est-à-dire que personne n'intervient dans la rue, personne n'intervient dans les bus, etc. Les gens ont peur de se faire attaquer.
Merci beaucoup, on s'interrompt et puis on reviendra. Alors, pour vous montrer un exemple qui regroupe à peu près, qui condense à peu près toutes les problématiques du moment, agression des élus, soulèvement de la terre, le retour, les ultras de gauche et la fête de la musique, c'est dans l'actu. Pardon, à tout de suite. 90 minutes info revient juste après. Le rappel des titres signé Somaïa Labidi. Rebonjour Somaïa.
Effondrement d'un immeuble à Paris, 6 blessés graves, une personne toujours portée disparue. Les recherches se poursuivent pour tenter de la retrouver dans les décombres de cet immeuble du 5e arrondissement de Paris. Le gaz a été coupé dans un large périmètre pour des raisons de sécurité, a indiqué le distributeur GRDF, en soulignant qu'on ne peut pas avancer de cause sur la raison du sinistre. Pour rappel, hier peu avant 17h, une explosion suivie d'un incendie a provoqué l'effondrement d'un immeuble abritant une école de mode privée. Kiev frappe un pont stratégique entre la Crimée annexée et une zone occupée. La frappe n'a pas fait de victimes. Quant aux dégâts, ils sont en cours d'évaluation. Une attaque qui intervient alors que les forces ukrainiennes mènent une offensive pour libérer les territoires occupés du sud et de l'est du pays. Et puis Pékin a enregistré aujourd'hui sa journée de juin la plus chaude depuis le début des relevés. La station météorologique de Nanjiao, qui fait référence dans la capitale chinoise, a enregistré une température de 41,1 degrés Celsius. Une annonce faite par le Bureau météorologique national alors qu'une large partie du nord de la Chine a vu le thermomètre franchir les 40 degrés.
Quand même. Ça s'est passé hier soir, alors que la fête de la musique battait son plein. À ce moment-là, le maire de Toulouse et quatre personnes de son entourage, ont décidé d'aller à la rencontre des Toulousains. Bon, c'est un peu la tradition, ça se passe toujours comme ça. Sauf que cette fois-ci, ils ont été pris à partie par des militants d'ultra-gauche en marge d'une mobilisation qui avait lieu à ce moment-là en soutien au soulèvement de la terre. Les images, les faits avec Mathilde Ibanez pour commencer.
Il est environ 20h30 dans le quartier de la Colombette à Toulouse, lorsque le maire de la ville et quatre de ses élus se font agresser par un groupe d'ultra-gauche.
On a été très vite entouré, dirais-je, et pris à partie de manière violente. Ils ont pris des poubelles qui étaient à proximité, ils les ont ouvertes et ils nous ont balancé des projectiles, des ordures ménagères et aussi des bouteilles se trouvant dans les poubelles.
Rapidement exfiltrée par les forces de l'ordre, une élue a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Selon le maire de Toulouse, ce groupe faisait partie du rassemblement de soutien au mouvement des soulèvements de la Terre, dissous quelques heures avant en Conseil des ministres.
Le mouvement de la Terre, j'en porte témoignage personnellement depuis ce soir, méritait véritablement d'être dissous. Parce que quand on se pratique des violences comme ça, c'est que véritablement, oui, on n'a pas sa place dans une démocratie.
Une violence contre un élu de la République qui a provoqué de vives réactions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son soutien au maire de Toulouse.
soutien au maire de Toulouse qui, avec d'autres élus, ont fait l'objet d'une agression inacceptable par des individus de l'ultra-gauche. La violence ne peut être acceptée en République.
Le maire se réserve par ailleurs le droit de porter cette agression devant la justice.
Je vous propose aussi d'écouter le député LFI Alexis Corbière qui, entre autres choses, est revenu aussi à cette agression.
Moi, je suis pour la fermeté, mais là, c'est une forme de laxisme, de l'utilisation politicienne de ce pouvoir de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire d'une instrumentalisation pour faire croire que dans ce pays, il y aurait, comme il l'a dit d'ailleurs, un terme qui, selon même les services de renseignement, n'est pas vrai, un éco-terrorisme. Et on dissout quelque chose qui est un mouvement sur des bases juridiques très faibles, et à mon avis, il y a même des recours qui sont déposés, mais il y a de l'agitation. Darmanin est très fort là-dessus. Pour dire le danger, c'est ça. Donc moi, je suis contre la violence de toute manière. Ce qui s'est passé à Toulouse, j'ai pas suivi, ça a eu lieu cette nuit, c'est inacceptable. Et il va de soi que personne ne doit être pris à partie, personne ne doit être violenté.
Alors, un, j'ai pas suivi. Déjà, ça veut dire, bon, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Et puis, il y a toujours un mais derrière pour tenter de minimiser la portée de ces actions, Élodie Huchard.
Et encore, parce que là, il y a une condamnation avant le mai, ce qui est déjà presque pas mal, j'ai envie de dire. On se rappelle, par exemple, du tweet de Jean-Luc Mélenchon quand le petit-neveu de Brigitte Macron avait été agressé, où très clairement, c'était un peu... Oui, c'est triste pour lui, mais après tout, c'est quand même bien fait. Et forcément, ce climat-là, on ne peut pas s'étonner, malheureusement, que des élus, des maires, des conseillers municipaux, peu importe, soient agressés quand on voit dans la classe politique à l'Assemblée à quel point cette haine, elle est attisée. Quand on a en fait des personnels politiques qui défendent les soulèvements de la terre, qui, pardon, ne sont pas juste des gentils écolos qui vont le dimanche se balader en forêt, forcément, les propos violents parfois des politiques, ça trouve écho, et on l'a vu justement sur l'agression de Jean-Baptiste Trognu, bien ça donne écho chez des personnes qui se disent « bah oui, finalement, cette classe politique, en fait, elle n'est pas méritante et on doit y aller et on y va violemment ». Et ce que dit le maire de Toulouse, par exemple, dans La Dépêche aujourd'hui, il explique à quel point c'était violent, on l'insulte, et il explique lui-même, il dit « il ne faut pas oublier, parce que c'est assez intéressant ce qu'il dit, on parle beaucoup de la violence contre l'extrême droite, mais c'est l'extrême gauche qui est en cause, et ça, il faut le dire, parce qu'il y a trop de complaisance, et effectivement, tant qu'on aura une parole politique au niveau national qui ne sera pas claire dans la dénonciation, forcément, il y aura des attaques ».
Ça va au-delà du déni, c'est-à-dire qu'il y a même un effet d'encouragement à passer à l'action aujourd'hui, Céline ?
En tout cas, on peut constater aujourd'hui que la violence politique est assumée et exercée à l'extrême gauche de l'échiquier. Et là où le maire a raison, c'est qu'effectivement, elle n'est pas assez dénoncée, mais parce qu'en partie, ce gauchisme culturel est encore imprègne très profondément certains médias et certaines structures de la société. En revanche, du côté des Français, la leçon a été apprise et comprise. Il n'y a qu'à regarder sondage après sondage. LFI fait aujourd'hui plus peur aux Français que le Rassemblement national. Quand on parle de violence politique, les gens l'associent autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite aujourd'hui. C'est la manière dont elle est retranscrite dans le débat public et dans le débat médiatique où là, il y a encore une différence. Mais sondage après sondage, la gauche est en train de s'abîmer complètement et la NUPES, en étant ambiguë sur la question de la violence politique, est en train de prendre la place de l'extrême droite comme repoussoir universel.
Si on parle un peu sur le plan politique, vous me faites penser, Karim, si on se projette un petit peu, si demain il devait y avoir une dissolution, les élections anticipées, vous pensez que la NUPES ferait le même score ? Ou qu'il y a quand même une sorte, il y aurait une déperdition liée aux outrances, y compris de leurs élus dans l'hémicycle.
C'est difficile à dire. Déjà au sein de la NUPES, je pense qu'il y a, quand même un peu d'eau dans le gaz entre les forces politiques qui la constituent. On a bien vu le Parti communiste, Fabien Roussel, parfois se détacher. On voit les écolos qui veulent faire cavalier seul pour les européennes. On voit le PS qui est divisé aussi avec la montée de Cazeneuve au créneau pour incarner une alternative à ce que la NUPES fait. C'est pas aussi soudé que ça. Donc je ne sais pas s'il serait capable de se représenter unis aux élections. Non, moi je mets à équidistance en matière de condamnation les violences d'extrême gauche et d'extrême droite. Je veux dire, et je trouve que ce qui est catastrophique, c'est de voir qu'en fonction des sensibilités, on a des gens de la LFI qui condamnent avec mollesse le soulèvement de la terre, leur méthode, et que quand c'est l'attaque du maire de Saint-Brévin, alors qu'on sait très bien qu'il y a des groupes excusés d'extrême droite, les fonctionnaires de police disent qui déjouent régulièrement aussi des attaques et autres, on a des gens du RN qui sont là aussi un peu mollassons du collier. Il faut arrêter avec ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de clémence quand même sur ce qui se passe à l'ultra-gauche qu'à l'ultra-droite ?
Et de la part de qui ?
de la part, elle le dit, des médias,
des médias.
Du sentiment ambiant lié à une certaine histoire aussi de notre pays.
Je ne crois pas qu'il y ait plus de clémence. Je pense que les modes opératoires sont peut-être différents, en tout cas pour les fonctionnaires de police, quand on vous leur en parle. Ils prennent très mal le fait qu'on leur dise « Ah, ben pour investiguer à l'ultra-droite, c'est plus simple qu'investiguer à l'ultra-gauche. » Non, c'est pas plus simple. Donc, ils le font de la même manière, avec la même force, avec les mêmes convictions, les fonctionnaires de police. Après, les modes opératoires ne sont pas les mêmes.
On n'insulte jamais quelqu'un en le traitant d'extrémiste de droite, par exemple, d'extrémistes de gauche. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand il s'agit de sortir quelqu'un de la République ou du débat public, on le fait sur le mode facho, tu appartiens à l'extrême droite. Alors qu'aujourd'hui, le maximum de violence constatée, on l'a et il dépend énormément de l'extrême gauche. Donc, c'est ce deux poids, deux mesures numérique qui pose sans doute problème.
Mais sortons de ces invectives politiques. La réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui représentent des groupuscules, des factions contre la République. Donc, on le voit bien. Et il faut lutter avec la même force et la même conviction contre ces groupes, quel que soit leur creuset idéologique. Je veux dire, moi, je ne fais pas de compétition entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Moi, les deux, je dirais, modes opératoires m'inquiètent pour notre République. Moi, c'est la République qui me tient à cœur. Et je condamnerai avec la même force l'extrême gauche et l'extrême droite.
Allez, on s'interrompt et puis on revient pour parler évidemment de l'explosion de la rue Saint-Jacques avec encore beaucoup d'interrogations autour de ce qui s'est passé. Puis un témoignage. Nous serons en direct avec Linda Zaourar. Elle est présidente de l'association des victimes de rescapés de l'explosion de la rue Trévise. C'était il y a déjà 4 ans et demi. Elle nous attend. À tout de suite, madame. (Rire) 16h50 sur notre antenne. Avant de se quitter, évidemment, on va prendre des nouvelles de ce qui se passe du côté de la rue Saint-Jacques. C'est dans le 5e arrondissement parisien. À cette heure, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une personne, au moins toujours portée disparue dans les décombres. Et puis il y a ce bilan toujours des victimes. 6 personnes en urgence absolue et une cinquantaine de victimes au total. Ce chiffre n'a fait que grossir tout au long de la nuit. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions de riverains.
Sur le coup, si vous voulez, on pense qu'on est littéralement mort. Quoi. La terre tremble, les fenêtres sont brisées, comme un tremblement de terre, c'est ça.
Je travaille ici à 200 mètres environ. Et juste à sortir de mon travail, j'ai senti l'explosion. Moi et mon mari, juste à la sortie, et on ne savait pas qu'est-ce que c'était. C'est quelque chose qui nous touche, même c'est à côté chez nous, c'est... Donc c'est boulot, c'est comme la famille aussi, et c'est quelque chose qui nous touche.
On a été soufflés littéralement par l'explosion vers 5h de l'après-midi. On s'est tous retrouvés propulsés de nos sièges, on s'est retrouvés les uns à côté des autres. Le sol était jonché d'objets, on se demandait ce que c'était.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est la foudre qui est tombée sur l'immeuble? En fait, on ne sait pas, quoi. Mais c'était quelque chose de très fort et d'inhabituel et on pense évidemment au pire dans ces cas-là. C'est clair.
Bonjour Linda Zaourar, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des victimes et rescapées de l'explosion de la rue de Trévise. L'explosion d'hier dans le 5e arrondissement, cette fois, a dû vous rappeler de bien mauvais souvenirs, j'imagine.
Oui, tout à fait. Ça ravive les souvenirs de l'explosion de gaz de la rue de Trévise du 12 janvier 2019. Nous étions sous le choc pour la majorité des victimes de l'explosion de gaz de la rue de Trévise. Oui.
Alors, pour l'instant, les enquêteurs sont bien embêtés pour expliquer, et c'est encore trop tôt pour dire ce qui s'est réellement passé. Mais est-ce que, de votre point de vue, et parce que vous connaissez bien le dossier maintenant avec le recul, il y a d'ores et déjà quelques parallèles qu'on peut se risquer à dresser?
Alors bien sûr, avec toutes les précautions, parce qu'aujourd'hui, l'enquête va démarrer et c'est vrai que avec les témoignages où beaucoup de témoins indiquent avoir senti le gaz, forcément ça interpelle parce que beaucoup de témoins disent avoir senti le gaz quelques minutes avant l'explosion, d'autres disent dans la journée. Et c'est vrai que ces images d'explosion et de feu qui vient juste après rappellent effectivement la rue de Trévise, oui.
Alors, ça nous conduit évidemment à parler du drame que vous avez vécu au niveau de la rue de Trévise. Où en est l'enquête? Est-ce que les raisons ont été formellement identifiées? Parce que j'ai quand même lu que plusieurs théories s'entrechoquaient encore 4 ans après les faits.
Alors... Au niveau de l'expertise, enfin, la contre-expertise est en cours. Elle est en cours de. Enfin, nous devons recevoir le rapport d'expertise le 30 juin. Il y a eu une expertise initiale qui a été. L'instruction a été clôturée et la mairie de Paris a fait appel puisqu'elle a été mise en examen avec le syndic de copropriété de l'immeuble et donc elle a fait appel de cette décision. Elle a fait appel pour une demande de contre-expertise.
Allez-y. Alors je crois qu'il y a eu un petit problème, un petit souci de son. Je ne sais pas si on va pouvoir retrouver Madame Zahourar avant la fin. Alors, 4 morts, hein, rue de Trévise, on le rappelle, à l'époque. Comment revivre sereinement après ça? Comment on se reconstruit? On imagine le trauma que c'est aussi pour les commerçants, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient et qui travaillaient dans cette rue, Karim Zeribi, à ce moment-là.
Un traumatisme, effectivement, qui dure pendant des années, certainement, sur le plan psychologique. On doit revivre ce drame pour les gens qui étaient au cœur de ce drame de la rue de Trévise. Après, derrière, il y a quand même une enquête qui vous rappelle sans cesse ce que vous avez vécu, un procès avec des décisions de justice, une assurance dont vous attendez quand même quelques indemnisations parce que vous avez été touché sur le plan psychique, physique, mais aussi matériel.
Ça prend du temps,
et tout ça prend un temps très très long qui laisse des traces certainement à vie pour ceux qui ont vécu ça. Et je pense que pour le 5e arrondissement, le drame qu'on a vécu hier, à l'identique, les personnes vont passer par ce processus dramatique. L'état est long quand même, je trouve.
Mais justement,
le temps de la justice, le temps de l'indemnisation, tout ça est trop long quand même.
On a retrouvé la liaison avec Linda Zahourar. Je vous repose cette question en espérant que vous m'entendiez. Comment on revit sereinement après un tel drame? Parce que ça permet de se projeter aussi pour ceux qui sont touchés dans le cinquième.
Alors, sereinement, c'est honnêtement très compliqué, surtout que nous, on a eu la particularité et on a eu un traitement qui a été très particulier. C'est-à-dire qu'on a eu ce sentiment d'être abandonné, d'avoir été traité au départ comme un fait divers lambda. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu réellement de prise en charge des victimes de l'explosion de la rue Trévise. Nous avons eu la chance d'avoir la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkly, à nos côtés. Et Sophia Seco de la FENVAC, mais sinon c'est vrai qu'on a eu, on n'a pas eu une réelle prise en charge. Donc derrière, de vivre sereinement, c'est beaucoup plus compliqué, et surtout que ce manque de prise en charge a aggravé les blessures tant physiques que psychologiques.
Merci beaucoup Linda Zahourar, évidemment vos mots font écho, résonnent particulièrement aujourd'hui et sans doute on parlait de victimes de terrorisme communément, je pense que quand on vit un drame pareil, c'est pareil, hein, c'est le même processus,
ça
ravive des plaies qui sont bien ancrées. On leur souhaite évidemment de se retaper du mieux qu'ils le peuvent. Regardez, l'invité de 17h30, ce sera dans Punchline, Olivier Klein, ça nous donne l'occasion déjà de vous encourager à regarder Laurence Ferrari et ses invités, le ministre de la Ville et du Logement qui évidemment reviendra à ce drame. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. On se retrouve tout de suite pour passer le flambeau à Laurence.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.